France Musique.
Vous écoutez France Musique, il est midi pile et vous avez rendez-vous avec Christian Merlin et son émission Au cœur de l'orchestre.
France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin.
Bonjour à tous, bienvenue au cœur de l'orchestre. On passe la semaine avec les mouvements lents. Hier, on était avec des adagios, donc plus lents que l'andante par lequel on avait commencé. J'ai insisté sur la dimension apaisante, ou triste, ou élégiaque de l'adagio. Pour Bartok, c'est une musique nocturne qui peut être mystérieuse ou résolument angoissante. C'est ce qui se passe dans sa musique pour cordes, percussions et célesta, peut-être son chef-d'œuvre. Et là, l'adagio commence, vous vous souvenez peut-être, par une note de xylophone lancinante répétée, un glissando de timbale, le fameux poing, un thème d'alto, bientôt rejoint par les autres cordes, des glissandi de violon sur lesquels s'élève une mélodie presque enfantine avec juste deux violons solos et un célesta qui crée un halo irréel. Et voici que cette comptine est interrompue par des coups violents avant une course-poursuite, tout ce qu'il y a de plus inquiétante.
Thank you.
Vous avez vu Shining de Stanley Kubrick? Si oui, vous n'avez pas oublié les plans où le petit garçon fait du tricycle dans les couloirs vides de l'hôtel et se retrouve face aux fantômes des petites filles assassinées. Eh bien, la musique choisie par Kubrick pour ces plans, c'est l'Adagio, de la musique pour cordes, percussions et Célesta de Bartok, que vous entendiez ici par Maris Janssens et le Concertgebouw d'Amsterdam. C'est un des exemples de musique nocturne de Bartok, pour qui l'Adagio était l'occasion d'installer des atmosphères poétiques, mystérieuses, avec toutes sortes d'apparitions. Vous avez ça aussi dans ces concertos pour piano, où on entend comme des oiseaux de nuit qui viennent trouer le silence de la nature. Alors là, on est dans quelque chose de concret, alors que pour le mystique Bruckner, auquel j'ai consacré une émission entière la saison dernière, on est toujours tiraillé entre la terre, avec un côté presque paysan, et le ciel, avec un sens de la transcendance qui donne vraiment l'impression de s'élever. Et là, eh bien, l'Adagio est le moment de ferveur spirituelle où on cherche à se rapprocher de l'infini. Et j'ajoute que Bruckner fait partie des compositeurs qui ne se contentent pas de l'indication Adagio, mais ajoute toujours une précision en allemand. Parfois, il ajoute solennel, parfois très solennel, parfois il ajoute lent, parfois il ajoute très lent. Pour l'Adagio de la septième, c'est bien simple, il a marqué très solennel et très lent.
Thank you.
Günther Wandt et le Philharmonique de Berlin dans cet adagio de la 7e symphonie de Bruckner. Vous avez entendu ces grandes phrases bruckneriennes qui semblent ne jamais vouloir arrêter leur ascension. Tout avait commencé par mes chers tuben, les tubas wagnériens, dont je vous rappelle qu'ils sont joués par des cornistes et qui suffiraient déjà à donner cette noblesse et cette profondeur, et puis les cordes qui prennent leur envol. Alors on a eu l'inquiétude, on a eu la solennité. Un adagio peut aussi avoir pour fonction d'apporter une forme de sérénité, de paix. C'est apparemment la fonction de celui de la 4e symphonie de Gustav Mahler, qui vient, il faut dire, après un mouvement particulièrement impertinent, ironique, pour ne pas dire grinçant, un genre de danse macabre, après lequel on a besoin d'un moment d'émotion, sans arrière-pensée. Et là, il me semble que Mahler n'a jamais été aussi proche de Schubert dans sa façon de faire chanter les instruments, comme sur un ton de confidence, en oubliant les barres de mesure, même si vous remarquerez les pizzicati de contrebasse qui donnent une pulsation à ce chant infini où on aurait sinon peut-être l'impression de se perdre, d'autant que bientôt les bois relaient les cordes pour que cela ne s'arrête jamais, surtout quand on pratique le portamento courant à l'époque de Mahler, cette manière de glisser d'une note à l'autre, ce que Maris Jansons fait avec beaucoup d'élégance. C'est le Concertgebouw d'Amsterdam qui joue.
Thank you.
Vous avez remarqué qu'à la fin de l'extrait que j'ai sélectionné, le climat change. On a eu pendant près de 5 minutes la mélodie continue sur fond de pizzicati de contrebasse. Mahler a marqué « ruhevoll » en allemand « paisible », on ne peut pas mieux dire. Et puis, au bout de 5 minutes, un hautbois plaintif que vous venez d'entendre. Et puis ces dissonances, cette phrase descendante, douloureuse, reprise par le corps. On sent que l'atmosphère de sérénité qui prévalait jusque-là peut être troublé à tout moment. C'est le moment de vous dire qu'un adagio est rarement un long fleuve tranquille. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Il faut vous dire aussi que préparer cette émission a été un crève-cœur, car je n'ai que 4 demi-heures pour ceux qui écoutent en semaine, ou 2 heures si vous écoutez le dimanche. Or, il y a tellement d'adagio sublimes que j'ai dû faire des choix, et choisir, c'est éliminer. Donc, pas de marche funèbre de l'héroïque, pas de 5e ou 8e de Bruckner, pas de symphonie avec orgue de Saint-Saëns, côté concerto, pas de 2e de Rachmaninov, ni concerto pour violoncelle de Dvorak ou concerto pour violon de Sibelius. En revanche, je ne pouvais pas ne pas passer celui qui les surpasse peut-être tous, l'adagio assai du concerto en sol de Ravel pour piano, d'autant qu'il a une forme tout à fait personnelle puisque c'est le piano qui commence seul, avec une mesure binaire à la main droite et une mesure ternaire à la main gauche, et puis au bout de 2 minutes 40, voici la flûte qui rayonne. C'est tout simplement sublime, surtout quand c'est Samson François qui joue et André Cluytens qui dirige. Thank you. Si vous voulez l'écouter en entier, je crains qu'il faille attendre l'émission du dimanche. Là, je n'ai plus le temps. On a commencé par cette mélodie toute simple en apparence, mais en apparence seulement, qui vous étreint. Ravel a confié avoir failli crever, je cite, en composant cet adagio qui concluait, sous la direction de André Cluytin, c'est avec Samson François au piano, l'avant-dernier épisode de ma série sur les mouvements lents, réalisé par Marie Groux, mixé par Stéphane Touvenin. Et demain, on ralentit encore de l'adagio, on passera au largo.
Ce mercredi soir, le chœur de Radio France et son directeur musical, Lionel Sow, vous propose de parcourir près de 4 siècles de musique chorale russe, ukrainienne et polonaise, de Nikolaï Dilecki à Krzysztof Penderecki, en passant notamment par Tchaïkovski et Rachmaninov. Lionel Sow et le chœur de Radio France, dans un programme rare et splendide, c'est à retrouver ce mercredi à 20h sur France Musique et l'appli Radio France.
En piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier, à 9h sur France Musique.
Choisissez votre saison demain dans En piste avec Tchaïkovski.
Et avec Vanessa Wagner qui enregistre le célèbre cycle du compositeur russe.
À découvrir demain dans En piste, une émission à écouter en toute saison.
En piste, une émission France Musique à retrouver sur radiofrance.fr et l'appli Radio France.
Ce jeudi soir, France Musique est en direct depuis le Théâtre des Champs-Élysées avec l'Orchestre National de France, le chœur et la maîtrise de Radio France dirigée par Bertrand de Billy. Ils interpréteront les 7 réponses des ténèbres de Francis Poulenc ainsi que le Requiem de Mozart avec en soliste Lisette Oropesa, Evmo Dubot, Cyril Dubois et Jean Tedjen. Rendez-vous ce jeudi à 20h sur France Musique et l'appli Radio France.
Vous écoutez France Musique et c'est l'heure de vous retrouver, Charlotte, pour les grands concerts.
Bonjour Christian, et oui, une heure en compagnie de nos orchestres maison. On vous retrouve demain à midi.
Avec plaisir.
France Musique, les grands concerts de la Maison de la Radio et de la Musique. Charlotte Landru-Chandès.
Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce deuxième et dernier volet de notre série consacrée à la violoniste Hilarianne. Aujourd'hui, on va l'entendre dans les concertos pour violon de Max Bruch et d'Antonín Dvořák. Bruch, pour commencer. Quand le compositeur se lance dans l'écriture de ce premier concerto pour violon au début des années 1860, il n'a pas encore écrit d'œuvre instrumentale majeure. Il racontera l'avoir remanié une douzaine de fois avant de parvenir à une version satisfaisante. La structure de l'œuvre sort un peu des cadres traditionnels pour l'époque. Par exemple, les deux premiers mouvements s'enchaînent, comme dans le concerto pour violon en mi mineur de Mendelssohn. De même, pas d'exposition orchestrale classique, mais un dialogue entre orchestre et violon. Le concerto est créé en janvier 1868, la veille des 30 ans du compositeur. C'est sans doute aujourd'hui son œuvre la plus célèbre. On écoute ce concerto pour violon numéro 1 en sol mineur de Max Bruch par la violoniste Hilarianne.
Thank you. Thank you.
Concerto pour violon numéro 1 de Max Bruch par la violoniste Hilariane, accompagnée par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par le chef Mikko Franck. Un concert donné le 19 novembre 2016 au Concerthaus de Vienne, en Autriche. Il est midi et 54 minutes.
France Musique, les grands concerts de la Maison de la Radio et de la Musique. Charlotte Landruchandès.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on écoute la violoniste Hilariane interpréter les concertos pour violon romantique. À suivre, un extrait du concerto de Dvorak. Alors, autant son concerto pour violoncelle est un incontournable, autant celui pour violon a longtemps divisé les interprètes. Dvorak entame la composition de ce concerto en 1879. Il songe le faire créer par le violoniste Joseph Joachim, grand virtuose de l'époque qui vient de créer le concerto en ré majeur de Brahms. Mais le violoniste fait traîner les choses, si bien que la création à Prague le 14 octobre 1883 se fait sans lui, remplacé par un compatriote de Dvorak, František Ondříček, futur violoniste de l'empereur à Vienne. Nous, c'est la violoniste Hilariane qu'on écoute bien sûr, aux côtés de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Mikko Franck. Voici les deuxième et troisième mouvements du concerto pour violon en la mineure de Dvorak.